Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est midi juste à Kinshasa, 13h à Uvira au site Kivu. Voici les titres de ce journal. Nord Kivu, une accalmie s'observe ce jeudi matin dans le groupement de Binza en territoire de Rutshuru. C'est après 3 jours d'affrontement à l'issue desquels les rebelles du M23 ont pris le contrôle de l'agglomération de Nyamilima sur l'axe routier Kiwanja-Ishasha. Près de 40 détenus se sont évadés hier mercredi soir au cachot du camp GD de la cité de Banzangungu. Selon les témoins, les prévenus ont pu s'évader en cascade grâce à un plan concocté par eux-mêmes auparavant. Le commandant de la police parle des 19 évadés et rassure de les rattraper. L'invité de ce journal est le coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi à l'Équateur. Tilassi Bofumbo pense que la lutte menée par les martyrs de l'indépendance de la RDC devrait inspirer la jeunesse congolaise. Mesdames, Messieurs, bonjour au Nord Kivu. Une accalmie s'observe ce jeudi matin dans le groupement de Binza en territoire de Rutshuru. C'est après 3 jours d'affrontements à l'issue desquels les rebelles du M23 ont pris le contrôle de l'agglomération importante de Nyamilima. C'est sur l'axe routier Kiwanja-Ishasha. Les sources dans la région indiquent que la zone reste très instable à la suite de la présence de nombreux groupes miliciens. Le point avec vous, Alain Hirung.
Après l'occupation sans combat par les rebelles du M23 des agglomérations de Buramba et Nyamilima dans la matinée hier mercredi, la zone est restée calme jusque ce jeudi matin, indiquent plusieurs sources contactées dans la zone. Selon ces sources, les rebelles qui contrôlent les deux agglomérations situées à environ 40 km de Kiwanja se retrouvent presque entourés par les miliciens locaux Mai Mai et FDLR. Ces derniers, après avoir abandonné Nyamilima et Buramba au M23, ont été vus tard dans la soirée, les uns à Katwiguru et Kisharo, une dizaine de kilomètres au sud de Nyamilima, et les autres dans les villages Nyaruange et Ishasha, 20 kilomètres plus au nord vers la frontière avec l'Ouganda. Ce qui, pour ces sources, n'augure rien de bon pour la sécurité dans cette zone où l'on redoute des affrontements à tout moment entre ces miliciens et les rebelles. D'autre part, dans les zones de Tongo, Bambo et Bishusha, une accalmie règne. Toutefois, les notables locaux dénoncent une poursuite du renforcement des positions des rebelles du M23 en hommes et en matériel militaire. Ce sont en particulier les positions occupées par les rebelles à Kabizo, Bambo et Kishishe.
Les États-Unis d'Amérique saluent les rapports à mi-parcours du groupe d'experts des Nations Unies publié le 30 décembre dernier. Partant des conclusions de ces rapports, les États-Unis réitèrent leur appel au Rwanda pour qu'il cesse tout soutien au M23. Cette déclaration a été rendue publique ce jeudi à travers un communiqué du département d'État américain. Cynthia Bachizina-Bizana nous en dit plus.
D'après l'esprit de ce communiqué, les États-Unis restent attachés aux efforts diplomatiques menés par l'Afrique, notamment les processus de Nairobi et de Luanda. Prenons note des preuves claires du soutien rwandais au M23 et des rapports crédibles de graves violations des droits de l'homme commis par le M23. Nous réitérons notre appel au Rwanda pour qu'il cesse tout soutien au M23 et que ce dernier retire ses troupes de l'Est de la RDC, souligne le département d'État américain. Aussi, le gouvernement américain dit dénoncer la collaboration entre des éléments de forces armées congolaises et des groupes armés dont les FDLR, tels que décrites dans le rapport des experts de l'ONU. Enfin, nous soulignons notre inquiétude face à l'escalade inquiétante de la xénophobie et des discours de haine contre la communauté rwandophone en RDC qui ont été mis en évidence dans le rapport d'après le département d'État américain. Qui encourage les responsables de la RDC de continuer à s'exprimer pour condamner de tels discours et identifier les responsables.
Au sud Kivu, le général-major Jérôme Tiko Tshitambwe a clôturé hier une mission éclair à Minembwe où il est allé rencontrer la task force FRDC-FDINB dans les hauts plateaux du territoire de Fizi. Selon le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 au sud du sud Kivu, le lieutenant Marc Elongo, le sous-chef d'état-major des FARDC en charge des opérations, a lancé l'appel à la population civile locale de se désolidariser des groupes armés, aussi à ce dernier de déposer les armes et adhérer au programme PDRC. Fiston Goma Mayabala pour plus de détails.
Sur place, la délégation du sous-chef d'état-major des FARDC en charge des opérations a fait état d'une situation sécuritaire sous contrôle. La task force FRDC et l'armée burundaise se trouvent sur place afin de poursuivre la traque de tous les groupes armés comme le prescrit le protocole d'accord. Une mission offensive aussi bien contre les groupes armés locaux qu'étrangers œuvrant dans la région des Hauts Plateaux. Au cours d'une parade militaire à l'aérodrome de Minembwe, le général-major Jérôme Chico Chitambwe a rappelé aux hommes des troupes ainsi qu'à leur commandant le socle de la mission des FRDC, celui de défendre l'intégrité du territoire national et de protéger la population civile et ses biens. Il les a appelés à la bravoure, au patriotisme et à la discipline pendant les opérations militaires qui s'annoncent dans la région. Depuis les récents affrontements entre l'armée régulière des FRDC et les combattants Tugwane Ogumino dans la périphérie de Minembwe, certains habitants désertent le centre commercial de Madegou pour se réfugier vers d'autres villages craignant des représailles de l'armée. Signalons que le commandant du secteur opérationnel Sokola Dessus du Sud Kivu, le général-major Ramazan Fundi, a accompagné cette forte délégation de l'état-major général à Minembwe. Après la visite, la délégation est retournée à Goma ce même mercredi. D'Ouvira Fiston Goma Mayabala Radio Kapi.
Nord Kivu encore, la MONUSCO a lancé une opération pour assurer la protection des civils le long de l'axe Beni Semouli Kikamango Nobili. C'est ce qu'a déclaré sa porte-parole à Radio Kapi. On écoute quelques explications de Ndeye Kolo de la MONUSCO au micro dans les Irung.
La MONUSCO a lancé l'opération Linda Ninja pour assurer la protection des civils le long de l'axe Beni-Semulike-Kamango-Nobile dans la province du Nord Kivu. C'est une opération de courte durée qui comporte des patrouilles conjointes MONUSCO-Forces armées de la République démocratique du Congo dans le but d'améliorer la sécurité et la liberté de mouvement des populations et des forces de sécurité. L'opération Linda Ninja, c'est aussi pour encourager le retour des personnes déplacées dans leur village d'origine.
Par ailleurs, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a annoncé hier mercredi la nomination du général de corps d'armée brésilien Otavio Rodriguez de Miranda Filho comme commandant de la force de la MONUSCO. Il succède à son compatriote, le général de corps d'armée Marco de Sá Afonso da Costa, dont le mandat expire le 28 février 2023. La ville de Bukavu a été secouée hier dans la soirée par une forte pluie qui a causé d'énormes dégâts humains et matériels. Cette pluie diluvienne d'une ampleur exceptionnelle a laissé plusieurs familles sans abri et d'autres encore complètement inondées. Certains axes routiers reliant le centre-ville à la commune de Kadutu et ses périphéries sont impraticables. Jean Kassami nous décrit la situation.
Les rapports que nous recevons des différents cadres des bases et des associations communales avancent un bilan provisoire de 3 personnes emportées par les eaux, 6 autres personnes repêchées et conduites dans des structures sanitaires. La route nationale numéro 2 reliant la ville de Bukavu au territoire de Kabare, Walungu, Mwenga et Shabunda est totalement bloquée à partir du lycée Wima dans la commune de Kadutu. La circulation des engins roulants y est complètement impossible et de même sur les tronçons Kadourou vers le marché central. Même les piétons peinent à s'effrayer un passage. La place Nyawera, considérée comme épicentre de la ville, s'est vite transformée en un lac artificiel. Des travaux de grande envergure sont requis pour permettre à la population d'évacuer à ses occupations. Parmi les causes à la base de ces inondations dans la ville, les organisations environnementales reviennent sur les constructions anarchiques et l'inexistence des travaux d'assainissement de la ville. Le lac Kivu devient comme une poubelle où tous les déchets se déversent pendant la pluie. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Au Congo central, près de 40 détenus se sont évadés hier mercredi soir du cachot du camp GD à la cité de Manzangungu. Selon les témoins, les prévenus ont pu s'évader en cascade grâce à un plan qu'ils avaient concocté auparavant. Et les policiers de garde désemparés par l'événement n'ont pas pu les arrêter. Le commandant du commissariat territorial de la police de Manzangungu, de son côté, ne parle que des 19 évadés et rassure qu'ils seront tous rattrapés grâce aux recherches que la police mène depuis la survenue de cette évasion. Des détails avec Nana Plurich Mambou.
Selon des témoins, cette évasion a eu lieu vers 19h au cachot de la police qui utilise les parquets près le tribunal de grande instance et le tribunal de paix de Mbanzangungu. Le même source affirme que ces détenus se sont attendus et ont exprimé les besoins de boire de l'eau. À l'arrivée du bidon d'eau, ils ont forcé la porte du cachot et sont sortis en masse. Les deux policiers des gardes, surpris par l'événement, n'ont pas pu maîtriser ces 40 détenus. Ces derniers ont fui en abandonnant leurs armes. Le chef d'antenne Banzangungu de la Commission nationale des droits de l'homme qui réagit face à cette situation indique que c'est le manque de célérité dans les traitements des dossiers judiciaires en période de festivité qui est la cause du surpeuplement de ces cachots d'une faible capacité, soit de 15 personnes. En réaction, le commandant du commissariat territorial de la police de Mbanzangungu, lui, ne parle que des 19 évadés sur les 23 qui se trouvaient dans ces cachots. Colonel John Barakomero affirme que parmi les évadés, il y a des bandits de grand chemin qui, après 48 heures de détention conformément à la loi, ont été transférés au parquet, mais pour des raisons qu'il ignore, les parquets les avaient renvoyés encore au cachot. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
2022 a été une année sombre pour les 25 000 travailleurs actifs et retraités de la Société commerciale de transport et port, l'ex-ONATRA, répartie dans 17 provinces de la RDC. C'est ce qu'a déclaré le président intersyndical de la SCTP hier mercredi à Kinshasa au cours d'un point de presse. Occasion pour Arma Osase de solliciter l'implication personnelle du chef de l'État pour le paiement de la créance de l'ex-ONATRA en vue de sa relance à travers la modernisation de ses équipements et autres outils de travail. On l'écoute au micro de Radio Capi.
Sur le plan social, c'est-à-dire en termes de bilan de la société, en 2022, les travailleurs ont traversé 2022 en difficulté du fait de l'accumulation des arriérés des salaires. Ils n'ont pas touché le mois de novembre, le mois de décembre. C'est la suite aux multiples difficultés que traverse la société. D'autre part, nous sommes pénalisés ou victimes parce qu'il y a des ports privés qui, malgré les incitations ou les décisions données par le président, jusqu'à preuve du contraire, aucune suite. Et au niveau de l'exploitation, l'État est l'actionnaire unique, mais l'État n'est pas capable de redorer l'image de la société, c'est-à-dire veut dire quoi, équiper nos ports. Et suite à ça, l'entreprise ou les travailleurs, nous avons traversé une période extrêmement difficile. On est bloqué par le gouvernement. Un État ou un gouvernement qui ne paye pas les dettes intérieures qui ne peut pas permettre aux sociétés de décoller. Je demande principalement au chef de l'État son implication personnelle pour que le ministre des Finances libère notre argent.
Et selon Arma Osase, cette déclaration de l'intersyndicale de la Société congolaise des transports et ports intervient après l'audience de ses membres hier mercredi à Kinshasa auprès du ministre intérimaire de tutelle pour solliciter son appui dans la résolution des problèmes que traverse l'ex-ONATRA. Sous un autre chapitre annoncé pour le 11 et le 12 janvier prochain, le Forum pour l'unité, la cohésion et le développement des filles et fils de la province du Maniema est reporté à une date ultérieure sur décision du Conseil provincial de sécurité. Dans un point de presse hier mercredi à Kindu, le président de ce forum a évoqué, entre autres, parmi les causes notées par le Conseil provincial de sécurité, l'arrivée au même moment au Maniema d'une délégation du niveau national pour les enquêtes en rapport avec les menaces et insultes à l'égard des dirigeants qu'auraient proféré les femmes militaires lors de leur marche. Cela étant, la province ne serait pas à mesure de sécuriser et les travaux de la commission qui arrive et les filles des fils du Maniema attendus à ce forum. D'autres précisions avec vous, Florence Kizalunga.
Cette décision a surpris la population du Maniema qui attendait impatiemment la tenue de ce forum qui se prépare depuis 6 mois. Monseigneur François Abeli, le président, dit prendre acte de la dite décision.
Il n'y a pas de relation de cause à effet entre ce qui s'est passé et le forum préparé depuis longtemps, entre le travail de la dite commission et le forum des filles et filles du Maniema. Et je leur dis que je prends acte, mais que je ne partage pas la justesse de cette décision-là parce que c'est clair qu'il y a autre chose derrière une telle décision.
À lui d'ajouter que cette activité n'a rien à voir avec la politique.
Cette initiative n'a rien à voir avec la politique. Il ne faut pas que les gens aient peur pour rien. C'est une initiative citoyenne, elle est apolitique. Elle n'est même pas confessionnelle. Ce sont les fils et filles du Maniema qui veulent s'asseoir ensemble, se parler, se réconcilier en vue de consolider l'unité, la cohésion et penser au futur de leur province.
Les organisateurs disent attendre que l'exécutif provincial leur communique la prochaine date. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
J-3 au Bénin avant les législatives du dimanche 8 janvier. Cette partie, dont 3 se réclament de l'opposition, briguent les 109 sièges de l'Assemblée nationale. Parmi eux, les démocrates, parti de l'ancien président Thomas Boniaï, qui participe à un scrutin pour la première fois et va mesurer ses forces. Le bloc républicain BR, parti de la mouvance présidentielle, les mieux ancrés dans le Nord, aura cette fois un adversaire de poids dans cette zone où l'ex-chef de l'État est implanté. Et puis le pape François préside ce jeudi les obsèques de Benoît XVI, une première dans l'histoire récente de l'Église. Décédé le 31 décembre dernier, les obsèques du pape émérite Benoît XVI se déroulent sur la place Saint-Pierre en présence des nombreux chefs d'État et de gouvernement et des dizaines de milliers de personnes.
L'invité.
L'invité de ce journal est le coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi à l'Équateur. Tshilasi Bofumbo pense que la lutte menée par les martyrs de l'indépendance de la RDC devrait inspirer la jeunesse congolaise, notamment éveiller l'esprit de sacrifice, d'engagement et de motivation dont le pays a besoin pour son développement, mais aussi pour son unité, son intégrité et pour la défense des droits humains. Tshilasi Bofumbo a été interrogé par Paul Richard Malingela.
Bonjour monsieur, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a poussé à cette activité?
Ce qui nous a poussé d'abord pour organiser ces travaux d'assainissement, c'est parce qu'il y a eu une valeur qui était versée pour que ces pays-là soient honorés. Et nous ne pouvons pas oublier nos martyrs, parce que la lutte pour laquelle ils sont morts, c'est le même engagement que nous avons aujourd'hui. Et nous, qui emboîtons leur pas, nous ne pouvons qu'honorer leur mémoire.
Quel enseignement est-ce que vous donnez à la jeunesse aujourd'hui à partir de cet événement?
Certainement, ce que nous faisons, c'est d'abord du bénévolat. Et la leçon que nous pouvons apporter à la jeunesse est que la jeunesse doit être vraiment motivée. Surtout nous qui avons encore de l'énergie. Si nos vies de 1959 qui sont nés même bien avant, ont eu le courage de le faire. À combien de fois, nous qui sommes encore jeunes, qui n'avons que moins de 40 ans, moins de 30 ans, et qui avons encore de l'énergie, pourquoi nous ne pouvons pas nous sacrifier pour notre pays? Pourquoi nous ne pouvons pas nous sacrifier pour élever les murs où il y a déjà une fondation? Donc la jeunesse doit vraiment être motivée, la jeunesse doit vraiment être consciente pour en fait travailler dans l'unité aussi et voir comment honorer la mémoire de nos martyrs pour donner une certaine valeur à notre pays.
Que doivent encore faire les jeunes pour maintenir ce cap de la liberté et de l'indépendance du pays?
Il est simplement question de la motivation. Nous sommes là, nous ne sommes pas différents de tous les jeunes. Il y a aussi certains jeunes qui ont des potentialités, mais qui manquent juste l'impulsion. Il suffit d'être boosté, il suffit d'avoir la motivation, il suffit d'avoir la volonté et faire quelque chose de bon. Et si nous serons unis, je crois que nous ferons plus que ce que nos alliés ont fait.
Il y a par exemple cet appel du chef de l'État à pouvoir s'enrôler massivement à l'armée pour pouvoir défendre l'intégrité du pays. À cet effet, vous ne pensez pas que la jeunesse n'a pas encore pris vraiment au sérieux cet appel du chef de l'État, par exemple?
Certainement, dans la ville de Mbandaka, ici, je vois déjà plusieurs centaines de jeunes qui se sont déjà enrôlés. C'est un pas déjà pour la défense de notre pays, surtout pendant cette période où nous sommes menacés par nos voisins. L'enrôlement des jeunes à l'armée, c'est une très bonne chose. Vous savez, en démographie, on m'a enseigné les tranches d'âge. Il y a l'âge de dépendance et l'âge d'activité. Nous avons encore cette opportunité-là de défendre notre pays en s'enrôlant dans l'armée, en faisant la politique, en nous introduisant dans la défense des droits humains, ce qui sont d'abord des valeurs à promouvoir. Parce que quand on s'enrôle dans l'armée, là, on accepte de servir les pays sous les drapeaux. C'est déjà un atout, mais aussi dans la politique pour influencer la prise de décision. Aussi dans la défense des droits humains, comme nous le faisons aussi. C'est une très bonne chose. Vraiment, nous encourageons les jeunes capables, intellectuels, courageux à s'enrôler dans l'armée pour défendre aussi notre pays comme l'a fait Mamadou Ndala et les autres.
Il y a encore des jeunes qui continuent à perpétuer les anti-valeurs, la fainéantise, le djaloulisme. Quel est le message que vous lancez alors à cette occasion?
Ça, nous pouvons carrément dire que les politiciens ont profité de notre naïveté. Quand nous voyons aujourd'hui la multiplicité des partis politiques, C'est juste une manière pour eux de nous diviser pour qu'ils règnent mieux. Si aujourd'hui les jeunes se sont éveillés et qu'ils ne laissent pas du temps aux politiciens pour nous mettre en conflit, là nous ferons quelque chose de très bon. Nous allons avancer calmement et sereinement. Si aujourd'hui les jeunes sont démotivés parce qu'il y a tel groupe de jeunes soutient telle personne, tel autre soutient telle autre personne, et c'est là qu'ils ont semé la divergence d'idées dans les chefs de jeunes, à tel point que quand nous faisons des travaux bénévoles comme ça, et qu'eux aussi viennent à leur tour distribuer des polos, des chapeaux, des 3000 francs aux jeunes, les jeunes disent, bon, ils les font gratuitement peut-être parce qu'ils bénéficient derrière certaines personnes, ce qui n'est pas le cas.
Je suis assis beaucoup, merci.
C'était l'invité de ce journal, le coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi à l'Équateur. Kilassi Bofumbo a été interrogé à Mbandaka par Paul Richard Malengela. C'est la fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.